dans les paragraphes suivants, et ça risque de l'obscurcir ou de l'éclaircir pour une partie du public. Donc, si, encore une fois, si vous avez des questions, ne vous gênez pas de vous les poser, mais chaque fois qu'une analyse est achevée. Bien, alors je vous rappelle qu'à partir de demain, le cours commencera à 10h30. Ne venez pas en retard parce que les portes seront fermées. Bien. Alors, première proposition de la Mishnah. Haya Kore Vatora Veigiyar Zman Amikra. Suivez sur la première page. Haya Kore Vatora Veigiyar Zman Amikra. Im Kiven Libo Piasta. Alors nous allons avoir, comme d'habitude, toute une série de lectures successives qui aura pour objet, en tout cas aujourd'hui, pour le premier cours, d'identifier de quoi parle la Mishnah. Quel est le cas concret que désigne la Mishnah dans cette première proposition, je ne l'ai pas encore traduite, mais que je vais faire immédiatement. Et nous avons l'habitude, pour établir le contenu de traduction d'un texte, de l'établir par petites unités de lecture et ensuite de recomposer l'ensemble de la lecture. Ces unités de lecture, en général, c'est un, deux ou trois mots, très rarement un peu plus. Alors réfléchissons sur chacune de ces propositions. Haya, Kore, Batora. Sous-entendu, on va traiter du cas de quelqu'un chez Haya, Haya, qui était Kore, lisant Batora dans la Torah. Je vais moi-même anticiper un peu sur l'identification de ce cas. Et tout de suite, les commentateurs, et en premier lieu Rashi, vont nous indiquer que ce lecteur dans la Torah ne lisait pas n'importe quoi. Il lisait, et nous allons nous demander s'il s'agit d'une coïncidence ou d'un cas beaucoup plus général, il était occupé à lire, comme on lit dans la Torah, au niveau de la lecture de la Torah, et il ne s'agit pas d'études, mais de lecture. J'aurai à définir ce terme tout à l'heure, de la kriya, de la lecture de la Torah. Il lisait le texte qui, d'autre part, est récité pendant la mitzvah du Kriyat Shema. Vous savez que la mitzvah du Kriyat Shema implique la lecture de trois textes, dont vous aurez les références dans vos synonymes, dans vos livres de prière, trois parashiot, qui sont extraits de la Torah, qui se trouve dans le livre de Bemidbar et dans le livre de Devarim. Et ces trois parashiot, la lecture de ces trois parashiot, constitue la mitzvah de Kriyat Shema. Et nous avons donc un sens très précis de l'expression de Kriya dans Kriyat Shema. Qui est lecture. Mais lecture est dans le sens d'un rite de lecture. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de prendre connaissance, de ce que dit le texte. Ceci est déjà une autre conduite, qui est déjà dans ses commencements une conduite d'étude, prendre connaissance de ce que dit le texte, mais il s'agit d'un rite de récitation du texte. Et je vous illustre tout de suite par un exemple bien connu, c'est la lecture de la Torah le Shabbat matin, ou les jours de fête, ou les jours du calendrier où il y a le rite de lecture de la Torah. Ce n'est pas du tout un rite d'étude, c'est un rite de proclamation, de récitation du contenu du texte. Il y a une mitzvah pour elle-même, qui est la mitzvah de Kriya. C'est le premier sens, donc, de ce texte. Alors revenons au cas que désigne la Mishnah. Il s'agit donc de quelqu'un qui était en train de lire, comme on lit dans la Torah, Kore, Haya Kore, la Torah. Et cette lecture de la Torah peut avoir, comme je viens de l'indiquer, deux bifurcations possibles. Soit c'est le rite de récitation du contenu d'un texte donné, et il s'agit là non pas du tout d'un rite de prière. Nous avons étudié le terme de la catégorie de cette notion de prière, c'est celui-là au séminaire précédent. Vous vous rappelez que pas tous les rites oraux, pas tous les rites qui se font par la parole ne sont des prières, en particulier le Kriyat Shema. Je sais très bien qu'on dit c'est une prière
mais je me réfère aux analyses bien précises que nous avons dites au séminaire précédent. Ce n'est pas une prière dans le sens strict, c'est un rite oral, un rite par la parole, mais qui est un rite de témoignage, un rite de proclamation de foi, sous forme de témoignage. Il y a la récitation d'un texte qui affirme la profession de foi de la tradition juive concernant, le thème principal étant, le monothéisme, c'est-à-dire l'affirmation de l'unité de Dieu. Il ne s'agit pas d'une prière, bien qu'il s'agisse d'un rite, encore une fois, d'un rite par la parole, un rite oral, mais c'est un tout autre rite, c'est un rite de témoignage. Ceci vous est indiqué d'ailleurs, pour ceux qui sont familiers avec le Sidour, par le fait que la dernière lettre du premier mot du premier verset et la dernière lettre du dernier mot du dernier verset sont mises en évidence dans le Sefer Torah et aussi dans les livres. Le premier mot du premier verset étant « Shema », et alors il y a un grand « Aïn », le dernier mot est « Echad », il y a un grand « Aleph ». Et vous savez très bien que « Aïn » et « Aleph » font apparaître le mot « Ed » qui signifie « témoin ». Donc il s'agit là d'un rite de témoignage, nous avons un rite analogue dans la récitation du « Alenu le Shabeach » qui se trouve à la fin de tout office, si j'ose dire, et qui non plus n'est pas une prière dans le sens de la tfila, rite de prière de demande, mais qui est aussi un rite de proclamation de foi sous forme de témoignage, et vous verrez qu'il y a deux paragraphes dans le Alenu le Shabeach, et pour ces deux paragraphes, la première lettre, c'est le Aïn, et la dernière, c'est un Dalet. Alenu le Shabeach, et le deuxième paragraphe commence par Alken. Alken. Vous verrez, les deux paragraphes se terminent par le Dalet du mot Echad. Et là, ça nous renvoie à un principe de halakha important, que dans ce cas, on entre dans le principe d'une proclamation de foi qui nécessite deux témoins. Il y a certains cas où un témoignage suffit, mais il y a d'autres cas où il faut deux témoins. C'est, du point de vue de la halakha elle-même, c'est le cas, puisque c'est la proclamation de foi des deux grandes articulations de la foi juive. D'une part, la spécificité d'Israël dans l'univers humain, allez-nous les chaber, c'est à nous de louer, à nous, j'ai entendu pas à d'autres. Et puis, ça c'est le premier témoignage de la spécificité d'Israël, et qui est affirmé de façon radicale. Vous verrez vous-même ce texte dans le Sidour, dans le premier paragraphe du allez-nous les chaber. Mais il y a un deuxième témoignage, qui est l'universalité d'Israël. Les taken olam malchut shaddai. Vous verrez vous-même dans le texte. Et donc il y a deux témoins qui sont cités. Vous voyez, la proposition de foi de la spécificité d'Israël, absolument radicale, et aussi, deuxièmement, la proposition de foi de l'universalité d'Israël, elle aussi absolument radicale. C'est la raison pour laquelle dans certaines communautés, on a perdu l'habitude avec le temps de dire le deuxième paragraphe, c'est une grande erreur du point de vue de la cohérence de la foi. De dire que le premier paragraphe, c'est déjà tronquer cette affirmation de témoignage. Bon, je referme la parenthèse de cet exemple. Et nous avons donc le cas de quelqu'un qui est en train de lire dans la Torah précisément les passages qui vont constituer le corps de lecture du rite de récitation du Kriyat Shema. Mais il ne les lit pas pour les réciter comme rite, il les lit comme on lit dans la Torah. Est-ce que jusqu'à présent c'est bien clair? Et tout de suite, Rashi intervient sur cette première unité de lecture, ces trois mots, Haya, Kore, Batora. Le pshat, c'est-à-dire la lecture immédiate, serait, il lisait dans la Torah, en principe, n'importe quoi. Haya, Kore, Batora. S'il est nécessaire que le commentaire que suivrait Rashi précise Haya, Kore, Batora, suivez avec Rashi. Rashi, vous l'avez sur la gauche, la colonne de gauche. Haya Kore Batora, Parasha Kriyat Shema. Il lisait dans la Torah la Parasha du Kriyat Shema. S'il est donc nécessaire que Rashi intervienne pour nous préciser ce qui, en principe, du point de vue de la familiarité que nous avons avec cette Mishnah, apparaît d'abord comme une évidence, puisqu'on traite de la Kavana, de l'intention de lecture du Kriyat Shema dans tout ce chapitre. Pour ceux qui ont déjà exploré la Mishnah, vous le savez déjà par vous-même. Eh bien, si Rashi doit nous mettre en évidence ce qui est apparemment une évidence, c'est-à-dire que c'est bien la paracha du Kriyat Shema qu'il lisait, mais comme on lit dans la Torah, pas comme on lit dans la synagogue au moment où chez soi, mais au moment de la récitation pour accomplir la mitzvah du Kriyat Shema le soir et le matin.
Pourquoi Vachy intervient? Pour le mettre en évidence, c'est qu'il y a un problème. Nous avons laissé cette question en suspens, mais on la retrouvera en fin d'étude à un certain paragraphe. C'est-à-dire que cela implique, la précision de Vachy implique qu'il veut évacuer une lecture qui serait erronée. Donc il y a une inventivité de lecture que ce dont on parle ici concernerait n'importe quel passage de la Torah. Hayakoreba Torah, il lisait dans la Torah. Mais nous devons récupérer cette éventualité de lecture. À un certain moment, le commentaire traditionnel vient préciser, cela ne joue plus ce dont on parle dans cette Mishnah que pour celui qui, lisant dans la Torah, lisait la paracha de Kriyat Shema. Mais a priori, voyez-vous, la portée de cette expression, Hayakoreba Torah, est beaucoup plus générale. Hayakoreba Torah. Et en effet, nous avons dans le vocabulaire talmudique une précision extrêmement importante qu'il est nécessaire d'indiquer. Est-ce que il y a un chiffon quelque part? Il n'y a pas un chiffon? Non, de la craie et de la craie aussi.
Parlez.
D'accord. Alors non, je vous ai demandé de parler. Et le mot de micro. Le mot de l'ikro signifie étudier la Torah, mais au niveau du mikra. Le mikra, c'est ce que nous appelons en français les écritures ou l'écriture, mais là il faudrait tout un séminaire, ne serait-ce que pour cette notion-là. En hébreu, ça se dit la lecture, et il y a une conception de la parole prophétique radicalement différente si nous disons mikra, la lecture, ou si nous disons comme en français, l'écriture. Je sais bien qu'il existe l'expression « kitvé à Kodesh », les écrits qui concernent la sainteté, « kitvé à Kodesh ». Mais c'est une parole de lecture mise par écrit, et on veut désigner la trace de l'écriture dans le livre, mais non pas la parole. Et j'ai parlé un peu rapidement, mais est-ce que vous avez au moins pressenti l'importance du sujet? Non? Alors je reviens sur ce point, mais c'est important. Nous parlons français. Et parlant français, on ne se rend pas compte qu'on véhicule avec les termes du français toute une mentalité des choses dont le français parle avec les mots qu'il emploie. Et vous êtes habitué à cette expression d'écriture, avec un grand L, okay? Ou l'écriture sainte, ou les écritures. Okay? C'est familier. Alors sachez que le mot hébreu que cela traduit dit exactement l'opposé. Mikra, qu'on traduit par le texte, l'écriture, mikra veut dire la lecture. Je pense que c'est clair.
Oui.
C'est le mot mikra. Ne confondez pas avec le mot mikré, avec un ré à la fin, qui signifie tout à fait autre chose. Mikré. Mikré, c'est quoi?
Hasard.
Ça peut être traduit par le hasard, c'est kéri le hasard, mais mikré, c'est un événement fortuit. Mikré, bémikré. Je sais bien qu'on traduit aussi par hasard, mais ce n'est pas très exactement ça. C'est le kéri, c'est l'événement de hasard. Mais le mikré, c'est ce qui advient fortuitement. On dit l'avènement, il faudrait dire l'advènement, avant que le dé ne soit tombé dans l'ancien français. Et donc, nous avons le mikra, ça veut dire la lecture. Et il y a une tradition de la lecture et une tradition de l'écriture, vous savez ça. Et il peut arriver que sur le texte écrit, un mot soit écrit d'une certaine manière, mais on le lit d'une autre manière. Em la masora ve em la mikra, klikti. Bon, ce sont d'autres sujets qui se relient à notre problème, mais ceci pour mettre en évidence. Lorsqu'on veut dire, dans le langage talmudique, étudier comme on étudie le mikra, alors on dit koré. Ça veut dire lire. Mais vous voyez, c'est une lecture qui est... C'est une lecture qui est sur le bord de la conduite de l'étude. C'est la raison pour laquelle dans les langues juives, C'est le cas yiddish, c'est le cas judéo arabe. Je pense que c'est aussi le cas très probablement judéo espagnol. Le mot lire en langue juive, ça veut dire étudier. Par exemple, je me souviens encore dans ma jeunesse, quand on voulait parler d'un talmud chacham, on voulait poser la question en arabe pour demander est-ce qu'il est compétent, est-ce qu'il comprend son étude. Alors on disait est-ce qu'il sait lire. Et vous comprenez le problème. Et je pense d'ailleurs que, à la limite, c'est le sens plein du mot lire. Parce que si on lit et qu'on ne comprend pas ce qu'on lit, on n'a pas lu. Il ne s'agit pas simplement de dépeler. Nous allons voir que c'est notre sujet. Il ne s'agit pas simplement de d'émettre les mots, mais de lire ce qu'il y a d'écrit. Vous savez, la Kabbalah enseigne que dans chaque livre, il y a trois livres. Il y a le livre que l'auteur a écrit. Il y a le livre que le lecteur lit. Et puis il y a le livre lui-même, tel qu'il est, objectivement. Il y a trois livres, n'est-ce pas ? Et alors, vous voyez que lorsque nous parlons de l'écriture, que nous parlons de la lecture, nous ne parlons pas du même contenu de discours, alors même qu'il s'agit du même texte. Est-ce que c'est suffisamment clair ? Il y a donc ici toute une dialectique de compréhension par la lecture qui définit une certaine forme d'accès au savoir bien précise, qui s'appelle en hébreu « kriya ». Corée. J'avais dans une des premières pages de la Maseret Brachot l'expression suivante. Im ragil likrot Corée. Im ragil lishnot shoné. Vous connaissez cette expression ? Bon, je vais vous décrire dans quel contexte. On établit quel est l'ordre de la conduite, du comportement, le soir, à partir du coucher du soleil. À partir du coucher du soleil et dès l'apparition des étoiles, la première mitzvah, c'est la proclamation du Kriyat Shema. Ensuite, c'est la mitzvah de la tefila du soir. Alors, la Gemara établit, en citant une Braïta, quel doit être l'ordre du comportement de l'homme à la fin de sa journée de travail. Et il doit, à la fin de sa journée de travail, on voit que dans le temps naturel, du contexte culturel dont parle la Mishnah, la journée de travail s'achève au coucher du soleil. Et puis voilà que la première mitzvah ne prend effet légalement qu'à partir de la sortie des étoiles. C'est un autre problème de ce temps de Ben Hashmashot, le temps du crépuscule du soir. Est-ce qu'il fait encore partie du jour précédent ou est-ce qu'il fait déjà partie du jour qui vient et qui commence à sa nuit ? Donc c'est un temps ambigu, c'est un temps de passage, c'est un temps d'ambivalence, c'est le temps du crépuscule, les poètes savent en parler, mais il y a ici, du point de vue de la halakha, une désignation d'une catégorie bien précise, c'est le temps où c'est ni jour ni nuit. Et il y a là une catégorie très importante, qui n'est pas seulement poétique, qui est une catégorie de trou, enfin, comment dire, d'air, A-I-R-E, d'espace de temps, si j'ose dire, bien précise. Le Erev Shabbat Ben Hashmashot, par exemple, dans la Mishnah de Pirkei Avot. Ça désigne une manière d'être du temps qui est très importante. Ce temps qui fait et partie du jour, d'une certaine manière, et partie de la nuit, d'une autre manière, mais cela fait problème. Et le crépuscule du matin n'étant pas de même nature que le crépuscule du soir, puisque le matin, la participation est inverse, c'est le temps de nuit qui est déjà temps de jour, alors que le soir, c'est le temps de jour qui est déjà temps de nuit. Et vous pouvez élargir ce thème pour lui-même, c'est le fait, à l'échelle des générations, c'est les époques de transition. Et est-ce qu'elles font partie du monde d'avant ou déjà du monde qui vient ? La génération du désert, enfin là je m'envole, mais enfin vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Enfin le temps présent. Et puis, donc la Gemara intervient et dit il y a là une vacuité, un vide. La journée de travail a naturellement fini avec le coucher du soleil. Mais le commencement de la journée liturgique ne va commencer qu'avec l'apparition des étoiles. Il y a donc entre le coucher du soleil et l'apparition des étoiles, ce temps de crépuscule, il y a danger. Il y a vulnérabilité. Vulnérabilité de quoi ? Vulnérabilité de bitulzman. Vulnérabilité de perte de temps. On ne peut commencer la journée qui vient qu'avec la mitzvah du Kriyat Shema. Mais la journée de travail qui s'est achevée déjà au coucher du soleil, le Kriyat Shema étant à la sortie des étoiles. Il y a tout ce temps de crépuscule où je suis en danger de perte de temps. Le terme qui est employé, c'est aussi un autre sujet. C'est surtout dans la chassidut que ce vocabulaire a été développé par la suite. Mais le terme qui est employé par la tradition pour dire perte de temps, et c'est l'indication du plus grand blasphème métaphysique, la perte de temps. Notre manière d'être, c'est de durer. Et par conséquent, perdre le temps, c'est l'assassinat de l'être. Au niveau métaphysique absolu. Bitulzman, c'est un grand blasphème. Perdre du temps. Parce que la manière d'être de l'être, c'est de durer. Et on dit dans la sagesse des nations, l'ennui est la mère de tous les vices. Mais c'est encore faible par rapport à cette catégorie du Bitulzman. C'est-à-dire l'impression qu'on a assassiné l'être absolu en perdant du temps. Or, voilà donc un temps où on n'est pas occupé au travail, on n'est pas encore occupé à l'étude, qui commence par ce rite de la proclamation du Kriyat Shema ou à la prière, et donc il y a vulnérabilité. Alors la Gemara, citant une variété importante, va nous situer l'ordre du comportement. L'homme ne doit pas, venu du champ le soir, ne doit pas dire « je vais manger un peu », je vais dormir un peu, et après, le temps venu, je dirai le Kriyat Shema et je prierai, mais il doit d'abord dire Kriyat Shema et ensuite prier, ensuite manger, ensuite dormir. Voilà l'ordre. Et la Braïta indique qu'il y a là quelque chose de très grave, et celui qui bouleverse cet ordre, qui ne fait pas dans cet ordre-là, est Hayav Mita, se met en danger de mort. Qu'est-ce que ça veut dire Hayav Mita? Ce que je voudrais indiquer là, par rapport à l'analyse précédente, ce n'est pas forcément un chidouj. Je veux dire, ce n'est pas forcément un drash. C'est dans l'ordre du pshat. Pourquoi Hayavita ? Littéralement, on traduit passible de mort. Mais ça veut dire semer dans le cas d'être justiciable de mort. Et ça veut dire d'un tel homme qui, ayant fini son travail, avant de dire Kriyat Shema, prier, et ensuite seulement manger et dormir, fait l'ordre inverse. Je dis, j'ai encore tout ce temps de crépuscule. Ben, je vais manger un peu, Ochel Kima, Ishan Kima, je vais manger un peu, je vais dormir un peu, et après je dirai Kriyat Shema et Tfila. On va revenir à notre Corée tout de suite. Alors, de celui-là, la Gemara dit, il est Chayamita. Le Chola, Ower, Alibre, Chachamim, Chayamita. Je crois qu'on peut indiquer cela. Il est Chayamita dans le sens où il s'expose au Bitulzman. Alors, Bitulzman, c'est Mita. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'anéantissement du temps, c'est ça la mort. Donc, c'est clair? Je vous donne un autre exemple pour voir si vous avez bien saisi cette catégorie en hébreu. Nous avons une Gemara assez étonnante qui dit Goy che Shabbat chayav Mita. Un Goy qui pratique le Shabbat est passible de mort. Un goy qui pratique le Shabbat est passible de mort. Qui peut expliquer ça? Hayav Mita. Vous avez entendu cela? Au point d'ailleurs, je vous l'indique du point de vue de la halakha, lorsque un goy est en train de devenir juif, est en train de s'initier au Izot pour le Kirout, pour la conversion au judaïsme, on lui recommande très, très soigneusement que quand il mange kasher, pour s'initier à la kashrout avant même d'être soumis à l'obligation lorsqu'il sera juif. Mais il est par chinour, il est en éducation des mitzvot. Manger kasher, il faut manger kasher, kasher. Je ne sais pas comment donner mal à tout le monde. Ne pas assassiner, il ne faut pas assassiner, même pas avec un regard. Mais le Shabbat, alors on lui recommande de ne pas pratiquer Shabbat complètement. À cause, et ça dépasse la catégorie purement symbolique, à cause de ce principe, Goy She Shabbat Hayav Mita. Puisque j'ai cité cela comme illustration, je crois que ça vaut la peine de l'approfondir. Qui peut proposer une explication? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire cela? Un Goy qui se repose le Shabbat, qui pratique le Shabbat, est passible de mort. Et je vous dirai la dernière blague de Pourim de cette année en Israël. Une blague de Pourim. On se demande sérieusement si les Juifs de la Gola ont le droit de pratiquer Shabbat, parce qu'il y a écrit Goy She Shabbat Hayav Mita. Or, comme ils ont un passeport étranger. Non, mais c'est une blague. Ah ben, c'est pas tellement une blague. Bien. Non, il faut pratiquer le Shabbat, même en France. Ça, c'est une blague.
Un Shabbat doit être vécu pour être un Shabbat. Autrement, il est bourru.
Oui, mais pourquoi? Mais ça, c'est vrai pour le juif. Pourquoi?
Oui, mais un goy ne doit pas le vivre en temps. Le vivre vraiment.
C'est ça, c'est la question.
C'est ça.
Justement, désigner la question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe là? En quoi il y a un non vécu vraiment?
Quand on dirait oui, c'est au sens que le Bédine juif a un droit de mort sur lui.
Non, il réinvite un
homme. C'est parce que le Shabbat est la spécificité d'Israël, et que si un goy se met à même reconnaître le Shabbat comme si c'était une chose qui lui était donnée, c'est bien très grave.
C'est la même chose. Vous expliquez la question. En quoi c'est grave?
Comme on avait. Tout à l'heure, j'avais dit que le crépuscule, c'était le musulman. Il se peut que le monde, qu'on le voit vivre dans le temps du crépuscule et d'autres musulmans.
Très bien, bon, ça c'est de la belle poésie. Mais c'est joli. Vous avez entendu?
Non.
Que le temps du crépuscule, ça va dans le sens de la réponse. En fait, il restait un peu à la surface poétique, si j'ose dire. Mais il a relié les deux exemples. Regardez, le lien des deux exemples, je l'avais cité pour expliquer l'expression « Réamita », mais il est allé plus loin déjà dans le contenu. Premier exemple, le temps du crépuscule est un temps vulnérable. Et s'il y a Bitul Zman, alors il y a mort. Vous voyez? C'est bien comme raisonnement d'ailleurs. Alors, le principe qu'il propose, rappelle-moi ton nom, que David propose, c'est et le fait que le goy se trouve toute sa vie, tout son être, dans ce temps crépusculaire. Et par conséquent, il est en danger d'anéantissement d'être si il n'est pas occupé à agir, s'il est en Shabbat. C'est ça que tu as voulu dire? Bon, c'est très joli comme comparaison. Mais encore une fois, on peut saisir cette relation que si on a déjà compris qu'est-ce que ça veut dire. Que si un goy est en Shabbat, il est en Shabbat. Alors, je vais vous proposer une explication qui m'a été suggérée il y a très longtemps, je ne vous dirai pas quand j'étais étudiant à Paris d'ailleurs, et nous étions en ethnologie, on étudiait la sociologie des loisirs, et puis dans un des travaux pratiques, le professeur nous avait cité le cas d'une enquête qui a été faite à la fin du siècle dernier, à Chicago, par la police. Les policiers avaient été intrigués par le fait suivant. C'est que dans les quartiers de minorités italiennes, irlandaises, etc., le dimanche, c'était le jour où il y avait le plus de crimes. Et le jour où la police travaillait le plus. De crimes de toutes sortes. Tandis que le Shabbat, dans le quartier juif, c'était le jour où la police se reposait. Il s'est passé rien. Vous voyez Alors ils se sont posé la question d'essayer de comprendre ce qui se passe. Quelle différence il y a entre le Shabbat et le dimanche? Et vous êtes au bord de la réponse. Et alors, ils avaient convoqué, d'ailleurs, tout un symposium de sociologues, bien sûr des policiers, de sociologues et de théologiens. Finalement, ils sont arrivés à la conclusion que le dimanche et le Shabbat, ça n'a rien à voir. Et alors, je vais essayer de vous expliquer cela. Ça se rattache à ce principe, « Goy she Shabbat chayav mita ». Un goy qui fait Shabbat et se met en danger de mort. Vous voyez, la police tout de suite. Ce qui mène la police à intervenir. C'est basé sur le fait qu'après le déluge, au moment de l'alliance de l'arc-en-ciel avec Noah, il y a le verset que l'ordre des saisons ne changera pas. Yom valayla lo ishbut. Cette alliance est avec les Bnei Noir. C'est l'alliance universelle avec l'humanité tout entière, celle qui accepte les principes minimums de la morale universelle dans les grands principes, les sept lois des Bnei Noir. Et la Gemara établit à propos de la forme du verset, nous ne ferons pas l'exégèse en détail, ça prendrait du temps, mais vous pourrez vous référer à ce verset et à la Gemara correspondante, qu'il y a là l'indication que Yom Valaila Loishbotu, que le goy qui entre dans l'alliance des Bnei Noir, donc c'est plus que goy, c'est Ben Noir. Okay? La Gemara dit goy chez Shabbat. lui ne doit pas pratiquer le Shabbat. Or, il y a un passage dans Isaïe, qui est dans une haftara célèbre que nous disons le jour de jeûne, « Shomer Shabbat mechalelo, ve shomer yado me'asot kol ra. » C'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un principe commun entre l'acceptation de la règle de la moralité comme souveraine du comportement et le principe du Shabbat. Puisque le Shabbat nous a été donné, le Shabbat du monde a été donné pour fonder la liberté humaine. Or, pour simplifier un peu, si vous voulez, la question, je me baserai sur une Mishnah du Pirkei Avot. Yafeh Torah in derech eretz she'egia shneihem lo mechaperet meshakachat avot. Ça veut dire que l'alliance, le lien entre la Torah et le travail, le derech eretz, le comportement dans la société, c'est un lien beau, il a fait. Enfin, c'est bien que ce soit ensemble, parce que la fatigue de l'une et de l'autre repousse la faute. Ça veut dire que l'homme, à la limite, ne doit être occupé de telle sorte qu'on ne tombe pas dans ce que j'ai cité tout à l'heure, l'ennui est là, et la mère de tous les vices. C'est-à-dire qu'il est ou occupé par son métier, ou il est occupé par l'étude de la Torah. Quelqu'un qui ne sait pas comment occuper son temps de loisir s'expose à tous ces comportements de la police de Chicago, en fin de compte, qui peuvent l'envoyer à la chaise électrique. Voilà, vous avez compris le point. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le dimanche n'a rien à voir avec le Shabbat. Seul celui qui accepte le principe du comportement moral peut risquer le Shabbat, c'est-à-dire l'arrêt du travail. Parce que lorsque l'homme est occupé à travailler, il ne fait pas le mal. Et celui qui ne travaille pas, s'il n'est pas soumis à la loi morale, est candidat à tout mal possible. Ce que dira donc, de façon un peu plate, mais on a un peu enrichi, la sagesse des nations, l'ennui est la mère de tous les vices. Vous voyez à peu près le problème. Donc, hayavita, ça veut dire s'expose à ce qui mène à être punissable de la peine de mort. Et j'ai donc, comme je vous disais, un peu étudié ce problème à ce propos. Simplement, je voudrais ajouter, entre autres, deux remarques. Il y a des sociétés puritaines pour qui le dimanche ressemble au Shabbat. Vous comprenez ce que je veux dire? Où il ne s'agit pas je dis bien ressemble, je vous dirai pourquoi, ce n'est pas exactement la même chose. Tout simplement parce qu'un Shabbat normal, un Shabbat juif, est un jour joyeux, alors que le Shabbat, le dimanche des puritains, c'est, comment il dit d'ailleurs, ennuyeux comme un dimanche anglais. Vous voyez à peu près. Mais malgré tout, il n'y a pas ce risque. C'est-à-dire qu'il s'agit d'hommes qui ont pris sur eux le principe de la souveraineté du comportement moral. Alors, le repos dominical n'est pas dangereux. Est-ce que c'est clair? Mais pour celui qui considère que l'arrêt de travail mène au loisir, alors, s'il n'y a pas moralité, il y a évidemment ce qui s'est passé à Chicago. Ça y est, c'est clair? Bon. Deuxième remarque, lorsqu'il m'est arrivé d'étudier le problème des sociétés scandinaves, qui sont les sociétés de plus grande sécurisation, sécurité sociale, comme on dit, de plus grande sécurisation de l'individu, qui est absolument parrainée par la société, il y a un problème très grave. De la dépression du tonus psychique, du tonus de vie, par le fait que l'homme d'une telle société, a trop de loisirs dont il ne sait pas quoi faire. Et cela aboutit précisément à dévoiler ce problème. Or, c'est un problème qui va se poser à l'échelle générale de la civilisation, dans la mesure où la technique, dans son développement, amoindrira de plus en plus le temps de travail, va se dévoiler cette Gemara. Que Goy chez Shabbat Hayabita. Parce que si on ne sait pas comment employer le temps de loisir, tous les risques sont possibles. Et bon, vous comprenez, j'arrête la parenthèse, mais vous comprenez l'importance de ce problème et surtout l'expression Hayabita. Bon, je referme tout cela et nous allons aborder ce que dit la Gemara à propos de notre cas. L'homme qui vient du champ le soir, à la fin de son travail, et nous sommes bien évidemment dans une illustration de l'occupation naturelle de l'homme qui est le travail qui a pour objet la nourriture, l'agriculture. Et la première culture étant l'agriculture. Alors, la Gemara dit « Imragil likro kore » S'il a l'habitude d'étudier le Mikra, alors il étudie le Mikra. « Imragil lishno shone » S'il a l'habitude d'étudier la Mishnah, il étudie la Mishnah. Lorsque le temps du Kriyat arrive, il lit le Kriyat ensuite la Tfila, et après seulement, il mange et il va dormir. Vous voyez, j'ai cité tout ce contexte, pourquoi finalement, ça nous a appris un certain nombre de choses, mais pour établir le sens du mot « koré ». Vous voyez qu'il y a différentes manières de l'étude, différentes approches de l'étude. Si on étudie le « mikra », le verbe est très précis, ça s'appelle « likro ». Vous savez, vous entendez maintenant en hébreu, « likro » pas « mikra », « likro » pas « Torah ». C'est une certaine manière d'étudier, qui consiste à étudier le « mikra ». C'est une toute autre manière d'étudier qui consiste à étudier la Mishnah. Lishnot, le verbe est différent. Vous avez bien compris? Mais d'où vient cette expression des langues juives? Que lire, ça veut dire étudier. Comment? Comment on étudie le Mikra? C'est-à-dire comment on étudie le texte écrit, remis en lecture. Ça, c'est l'ikro. Alors que Lishnot, c'est l'étude par répétition, plus exactement par le fait de revenir sur, pour comprendre. Ça, c'est l'étude de la loi orale, de la tradition orale. Oui, et donc le. Alors, quelle était notre première question de cette première unité de lecture? Aya Kore Batora. Il était en train de lire dans la Torah, non pas. La récitation qui est la mitzvah elle-même de proclamation du contenu de la paracha du Kriyat Shema, mais il lit comme on lit dans la Torah. C'est clair? Quoi? La paracha du Kriyat Shema. La question que j'ai laissée en suspens, je vous la remets en mémoire. Pourquoi Rashi doit-il intervenir pour dire Aya Kore Batorah, paracha du Kriyat Shema? Ou bien c'est évident, ou bien c'est pas évident. Si c'est pas évident, alors ça veut dire qu'il y a une lecture préalable de la Mishnah qui à un certain moment a été particularisé par la tradition. Il s'agit de celui qui lit la paracha du Kriyat Shema et qui est qu'il lisait dans la Torah n'importe où. Il lisait dans la Torah. Arrive le moment, en te couchant ou en te levant, ici d'après le contexte, c'est le Kriyat Shema du matin. Enfin, arrive le moment où la mitzvah de proclamation du Kriyat Shema prend force de loi. Parce qu'avant, il n'y a pas obligation avant le temps. Après, il n'y a pas obligation. L'obligation est reliée au facteur du moment. Donc, avant que le temps n'arrive, j'ai beau lire ce texte, je ne réalise pas l'obligation d'avoir à le lire à un certain moment, en te couchant et en te levant, c'est-à-dire le soir et le matin. Voilà que je lisais ce texte comme on lit dans la Torah. C'était avant le temps. Et puis le temps arrive. Vous voyez ? Vigia Zman Amikra. Et arrive le temps de la lecture. Quelle est la question qui nous reste en suspens? Rashi, dans son commentaire, précise qu'il s'agit de la paracha de Kriyat Shema, le contexte où nous affirmons le principe de l'unité de Dieu. C'est clair? Mais il y a donc une lecture préalable que Rashi veut évacuer dans la précision qu'il nous donne, qui était que quelqu'un lisait dans la Torah n'importe quoi. Et arrive le temps du Kriyat Shema. Et je vous donne tout de suite la réponse, mais tout en laissant la question en suspens, vous allez réfléchir par vous-même du lien entre la réponse et la question. C'est qu'il y avait un temps très ancien où on réalisait la mitzvah du Kriyat Shema avec n'importe quel passage de la Torah. Donc ça nous laisse ouvert cette lecture, cette première lecture des trois premiers mots. Aya Kore Batorah, Kol Sheu, Kol Deu. N'importe quoi, il lisait dans la Torah. Puis arrive le temps du Kriyat Shema. Et donc, la mitzvah du Kriyat Shema pouvait être réalisée avec n'importe quel texte de Torah. Nous avons perdu cette capacité. Pourquoi? Ça veut dire que n'importe quel texte nous enseigne le monothéisme. mais nous n'avons plus ces yeux qui étaient capables de voir dans n'importe quel texte le principe du Kriyat Shema. Alors pour nous aider, la tradition a établi que cette mitzvah de proclamation de l'unité de Dieu se fera avec les versets qui en parlent de façon explicite. Est-ce que c'est clair? Et on cite effectivement le cas de Rabbi Yehuda, qui enseignait sans arrêt. C'est le maître de la Mishnah, Rabbi Yehuda Kadosh. Il enseignait sans arrêt. Un jour, ses élèves discutent entre eux, et on peut pas ranger ça. Et l'un demande à l'autre, mais quand est-ce que le Rav dit Kriyat Shema? Puisque il enseignait sans arrêt le jour et la nuit, et arrive le temps de la mitzvah de Kriyat Shema, on ne le voit pas faire le Kriyat Shema. L'autre lui a répondu, tu n'as rien compris. Tu n'as pas remarqué qu'à certains moments, il met la main devant les yeux, et dans son enseignement, il réalise la kavana du Kriyat Shema. Quel que soit le verset ou la Mishnah qu'il enseigne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, nous savons par ce cas particulier que cite la Gemara en citant l'exemple de Rabbi Yehuda, que effectivement, à un certain niveau d'envergure, le Mishnah Rishona, comme nous disons dans le langage talmudique, la Mishnah Rishona, c'est qu'on pratiquait la mitzvah de Kriyat Shema avec n'importe quel verset. Un jour, si vous voulez, nous pourrions faire des exercices de ce genre, de voir quelle est la kavana de Kriyat Shema dans un verset pris, j'allais dire au hasard, il n'y a pas de hasard, c'est pas mikré, c'est mikra. Mais, par exemple, on va faire un exercice simple. Mettez en évidence la kavana de Kriyat Shema dans le premier verset de la Torah. Ça, c'est simple. Qui peut expliquer? C'est simple. Qu'est-ce que dit le premier verset de la Torah?
Bara.
Non. Az. Bereshit, par Elohim, et très bien. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il n'y a pas un Dieu du ciel et un Dieu de la terre. Le même Dieu a créé et le ciel et la terre. C'est ce que tu voulais dire. Vous voyez qu'il y a trois livres dans chaque livre. Donc, s'il a dit, il y avait quelque chose qu'il n'avait pas encore lu. Mais il l'a dit. C'est-à-dire, voilà donc ce que dit le verset. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Hashem Echad. Oui? Bon, ça c'est une kavana très pshuta. Mais il est bien évident que c'est la première intention de lecture. Aya Koreba Torah. Quelqu'un était en train de lire dans la Torah comme on lit dans la Torah. N'importe quoi. Cette Mishnah même. Arrive le temps de la mitzvah du Kriyat Shema. In kiven libo yatsar. S'il a mis l'intention du cœur, nous allons étudier qu'est-ce que ça veut dire l'intention du cœur. In kiven libo. S'il a intentionné son cœur, yatsa, il a accompli l'obligation. Avec quelle conduite, donc, très précise, avant le commentaire de Rashi, Mishnah Rishona. Quelqu'un étudié, et puis voilà que pendant qu'il étudie, il se rend compte que c'est le temps du Kriyat Shema. S'il a mis une certaine intention du cœur dans sa lecture, alors il a accompli la mitzvah du Kriyat Shema. Mais Rashi nous précise, pour nous, ça veut dire que c'est quelqu'un qui lisait cette paracha du Kriyat Shema. Et c'est là que l'étude va commencer. Pourquoi? Parce qu'il nous semble y avoir ici toute une Mishnah pour un cas extrêmement particulier. Imaginez la coïncidence. Quelqu'un était en train d'étudier dans la Torah, quoi? Par coïncidence, la paracha du Kriyat Shema, quand par coïncidence arrive le temps de... C'est trop coïncident. C'est... Donc, on n'aura pas fini d'écrire. Donc, on n'a pas compris en quoi ce n'est pas un cas particulier sur pointe d'aiguille, là, au 13e degré, qu'au contraire, c'est un cas général. Est-ce que c'est clair? Voilà donc notre premier problème à étudier, sur lequel réfléchir. Je reprends maintenant la Mishnah. C'est plus la peine de traduire, je pense que tout le monde va l'entendre en hébreu. Haya Kore Batorah. Rashi Parashat Kriyat Shema. Vigyar Zman Amikra, Zman Kriyat Shema. Im Kiven Libo, Yatsa. C'est clair? Nous avons donc, premièrement, deux sens du mot lire. Lire comme on lit dans la Torah, et lire pour la proclamation de récitation du témoignage de la proclamation de foi. Kriyat Shema. C'est clair? Vous avez dit tout à l'heure, mais je le reprends, que la conduite de lecture est devant une bifurcation de deux rites possibles. La lecture qui mène à l'étude, la lecture qui mène à la proclamation, à la récitation. C'est clair? Alors donc, c'était quelqu'un qui lisait pour lire. Et non pas pour faire la mitzvah de Kriyat Shema, parce que c'était pas le temps. Et puis voilà que subitement le temps arrive. S'il a intentionné son cœur, il faut comprendre ce que ça veut dire, alors il est yotze, yotze en hébreu ça veut dire yatsa de chovato. Ça veut dire qu'il a accompli l'obligation qu'il avait, qui prend force de loi à ce moment. Peut-être que je vais un peu vous parler de ce dernier élément, pour ceux qui ne sont pas familiers à ces problèmes de halakha. C'est donc des mitzvot, des obligations qui n'ont force d'obligation qu'à certains moments. Prenons l'exemple du Kriyat Shema. Je vous pose une question. Pourquoi, avant l'apparition des étoiles le soir, par exemple, prenons le cas du soir qui est le plus simple, pourquoi, avant l'apparition des étoiles, le fait de dire Kriyat Shema n'a pas du tout le même objet que si les étoiles sont apparues? Si les étoiles sont apparues, alors, en lisant Kriyat Shema, je réalise la mitzvah qui me demande de lire le Kriyat Shema le soir. Si les étoiles ne sont pas encore apparues, j'ai un mérite, mais un mérite de lire, pas de proclamer. Pourquoi c'est le moment qui fait que la mitzvah devient mitzvah? Nous allons nous occuper tout à l'heure, dans la Gemara, ou demain déjà, d'une discussion avec Rabba, qui cite un exemple. Mais je vais utiliser cet exemple pour vous donner encore une illustration du mitzvah qui n'est mitzvah qu'à un certain moment. Par exemple, le jour de Rosh Hashanah, il y a une mitzvah de sonner du shofar. Et celui qui sonne du shofar un autre jour que le jour de Rosh Hashanah, ben, il a sonné du shofar, mais il n'a aucune mitzvah. Parce que c'est mitzvah de sonner du shofar le jour de Rosh Hashanah. Vous voyez ? Par exemple, à Pessah, il y a une mitzvah de manger de la matzah. Celui qui mange de la matzah en dehors de Pessah, eh bien, il a mangé de la matzah, mais il n'a aucune mitzvah d'avoir mangé de la matzah, parce que ça prend force de valeur qu'au moment. C'est clair ? Alors donnez peut-être la réponse vous-même à propos de Kriyat Shema. C'est ce qu'on appelle les mitzvot qui ne sont mitzvot qu'en leur temps. Avant, c'est pas mitzvah, après, c'est pas mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Que c'est le temps qui fait que l'obligation est une obligation. La bar mitzvah, je dirais. Okay ? Pour prendre le cas le plus général, vous avez raison. Parce que la brit mila, on peut la faire après. Si on n'a pas pu la faire en son temps, l'obligation reste.